nous ne sommes pas en présence d'un nouvel état de la matière, mais d'une relation nouvellement établie entre l'esprit conscient et la matière, qui nous offre une vue bien plus approfondie du mécanisme de la prescience. L'oracle se projette un univers interne afin de mettre en évidence de nouvelles probabilités extérieures à partir de forces qui ne sont pas bien comprises. Il n'est pas indispensable de comprendre ces forces pour les employer à façonner l'univers physique. Les anciens orfèvres et forgerons n'avaient pas besoin de connaître les complexités moléculaires et submoléculaires du fer, du bronze, du cuivre, de l'or ou de l'étain qu'ils travaillaient. Ils avaient inventé des puissances mystiques pour expliquer l'inconnu, tandis qu'ils continuaient à se servir de leurs forges et de leurs marteaux. Mère supérieure Taratsa, débat au sein du Conseil. L'édifice ancien où la communauté des sœurs mettait en lieu sur son chapitre ses archives et les locaux de ses commandements les plus sacro-saints produisaient la nuit des bruits qui étaient plus que de simples bruits. C'étaient des signaux que, durant les longues années qu'elle avait passées ici, Odrad avait appris à interpréter de manière précise. Ce craquement qu'elle venait d'entendre, par exemple, c'était la protestation d'une poutre en bois du plancher qui n'avait pas été remplacée depuis 800 ans. Elle se contractait la nuit en faisant ce bruit. Odrad avait la mémoire de Taratsa pour commenter ces signaux. La masse des souvenirs n'était pas encore bien intégrée, le temps avait manqué pour cela. Mais lorsqu'elle travaillait la nuit, ici dans le bureau de Taratsa, Odrad consacrait toujours quelques instants à poursuivre cette intégration. D'art et d'art ne faisant enfin qu'une. Ce commentaire, aisément identifiable, venait de Taratsa. Hanter les profondeurs de la mémoire seconde revenait à exister simultanément sur plusieurs plans. Taratsa, pour le moment, demeurait très près de la surface. Odrad se laissa descendre un peu plus bas parmi les vies multiples. Elle reconnut bientôt l'existence d'un ego qui respirait à part, tandis que les autres réclamaient qu'elle se fonde dans leurs expériences totales, au complet avec les odeurs, les sensations tactiles, les émotions. Tout cela conservait intact et à sa portée dans sa propre conscience. C'est un peu déroutant de rêver les rêves des autres. Encore Taratsa. Taratsa, qui avait joué un jeu si dangereux alors que l'avenir entier de la communauté des sœurs était dans la balance. Avec quel soin elle avait minuté la fuite qui avait permis aux catins d'apprendre que les Tlélaxu avaient incorporé des pouvoirs dangereux dans leur gola. Et l'attaque de la citadelle de Gameux n'avait guère tardé à confirmer que l'information avait atteint son but. La nature brutale de cette attaque, cependant, avait fait comprendre à Taratsa qu'il lui restait très peu de temps. Les catins n'hésiteraient pas à concentrer leurs forces pour détruire totalement Gameux, uniquement pour éliminer ce gola. Tant de choses dépendaient de Teg à ce moment-là déjà. Elle perçut alors la présence du Bachar dans l'assemblage de sa mémoire seconde, le père qu'elle n'avait jamais réellement connu. Même à la fin, on ne peut pas dire que je l'ai connu. Cela risquait de l'affaiblir, de trop plonger dans ce réservoir de souvenirs. Mais il lui était difficile d'échapper à ses appels tentateurs. Elle songea aux paroles du tyran, « Le terrible chant de mon passé ». Les réponses bondissent comme les moutons apeurés d'un troupeau, obscurcissant le ciel de mes inévitables souvenirs. Odrad se tenait comme un nageur entre deux eaux. « Je serai probablement remplacé, se dit-elle. Peut-être même vilipendé. » Mais Yonda n'allait certainement pas accepter facilement cette transmission des pouvoirs, mais peu importait, c'était la survie de l'ordre qui devait les motiver toutes avant tout le reste. Elle ressortit de la mémoire seconde et laissa porter son regard sur le coin de la pièce où, dans l'ombre d'une niche murale, un buste pouvait être discerné à la faible lumière des brilleurs. Ses contours étaient vagues dans le creux de la niche, mais elle connaissait bien ce visage. C'était celui de Chenoé, gardienne symbolique de la maison du chapitre. Là, par la seule grâce de Dieu, toutes les sœurs qui avaient émergé de l'agonie de l'épice, ce qui n'était pas le cas de Chenoé, avait dit ou pensé la même chose. Mais qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Une sélection attentive et une formation poussée contribuaient à diminuer grandement le nombre des échecs. Où était la main de Dieu dans tout cela? Dieu n'était certainement pas le ver qu'on venait d'amener de Rakis, et la présence de Dieu ne se faisait-elle sentir que dans les succès de l'ordre? Je me laisse prendre aux artifices de ma propre missionaria protectiva. Elle savait que ses pensées et ses interrogations étaient semblables à d'innombrables autres qui avaient hanté cette pièce dans le passé. Sans résultat. Néanmoins, elle n'aurait pu se résoudre à faire enlever ce buste gardien de la niche où il reposait depuis si longtemps. « Je ne suis pas superstitieuse, se disait-elle. Je n'obéis pas à des compulsions. C'est une question de tradition. Ces choses-là ont une valeur que nous connaissons bien. Il est certain que jamais un buste de moi ne sera ainsi honoré. » Elle songea alors à Vaf et à ses danseurs visages qui avaient trouvé la mort en même temps que Teg lors de la terrible destruction d'Orakis. Il ne servait à rien de se lamenter sur la perte que venait de subir le vieil empire. Mieux valait penser aux possibilités de représailles créées par le geste de violence inconsidéré des matriarches. Teg y avait déjà pensé. La séance du conseil qui venait de s'achever s'était écroulée de fatigue sans parvenir à des conclusions fermes. Odrad, pour sa part, s'estimait heureuse d'avoir détourné les attentions sur quelques points qui leur tenaient plus immédiatement à cœur. Les représailles d'abord. Cela les avait occupés un bon moment. Les précédents historiques avaient habillé les analyses des archives sous une forme qui avait satisfait à peu près tout le monde. L'assemblage hétéroclite d'humains qui gravitaient autour des honorés matriarches pouvait s'attendre à quelques chocs. X allait certainement se surpasser. Ses dirigeants n'avaient pas la moindre idée de la manière dont la concurrence de la dispersion allait les écraser. La guilde serait isolée et devrait payer chèrement son mélange et ses produits technologiques. La guilde et X, forcés de s'allier par les circonstances, tomberaient ensemble. L'étruitesse pouvait être à peu de choses près ignorée. Simple satellite d'X, elle s'estompait déjà dans un passé que les humains allaient abandonner. Et le Benetleylax? Oui, les Tleylaxu. Vaf avait déjà succombé aux honorés matriarches. Il ne l'avait jamais avoué, mais la vérité ne pouvait faire de doute. Juste une fois, et avec un de mes propres danseurs visages. Odrad eut un sourire attristé en se souvenant du baiser amer que lui avait donné son père. « Je ferai faire une deuxième niche, se dit-elle, pour y placer un autre buste, celui de Miles Teg, le grand hérétique. » Les soupçons de Lucille étaient troublants cependant. Teg était-il vraiment devenu enfin prescient dans ses derniers instants? Avait-il vu les non-vaisseaux? Ce serait aux maîtresses généticiennes d'élucider le problème.
« Nous avons fait le cercle, » avait accusé Bayonda.
Elle connaissait tout le sens de cette expression. Cela signifiait qu'elle s'était repliée sur une position défensive pour affronter la longue nuit des catins. Odrad se rendit compte qu'elle n'aimait décidément pas Bayonda ni son rire qui laissait voir ses larges dents carrées. Elles avaient longtemps discuté à propos de l'analyse effectuée sur un prélèvement cellulaire de Shyana. La preuve de Shyana y était bien présente. Elle possédait les gènes ancestraux qui la rendaient indétectable par les prescients et lui permettaient de quitter le vaisseau sans créer aucun risque. Duncan, par contre, posait un problème. Les pensées d'Odrad s'attardèrent sur le Gola prisonnier du non-vaisseau. Elle se leva de son siège et marcha jusqu'à la fenêtre obscure pour regarder dans la direction de l'aire d'atterrissage lointaine. Allait-elle prendre le risque de laisser sortir Duncan de l'écran protecteur constitué par ce non-vaisseau? Les examens cellulaires montraient qu'il représentait un mélange de plusieurs Gola Idaho, dont certains descendaient de Shyana. Mais quelle était l'influence de l'original? C'est impossible. Il faut qu'il reste prisonnier. Et Murbella? Murbella qui était enceinte. Quel déshonneur pour une honorée matriarche. Les Tleylaxu m'avaient conditionné pour que je tue mon imprégnatrice, avait déclaré Duncan. Vas-tu essayer de tuer cette catin? Avait interrogé Lucille. Ce n'est pas une imprégnatrice, avait été la réponse. Le conseil avait longuement discuté de la nature possible du lien qui s'était établi entre Duncan et Murbella. Lucille soutenait qu'il n'y avait aucun lien et qu'ils demeuraient des ennemis circonspects. Mieux vaut ne pas prendre le risque de les mettre en présence. Il faudrait étudier à fond les techniques sexuelles utilisées par les catins. Peut-être pouvait-on ménager une rencontre entre Murbella et Duncan à l'intérieur du non-vaisseau. C'était un risque à prendre. Assorti de mesures de protection adéquates, naturellement. Elle songea enfin au ver qui était encore dans la soute. Le moment de sa métamorphose approchait. Une fosse tapissée de mélange l'attendait. Le moment venu, Shyana la tirerait vers la fosse. qui serait en partie remplie d'eau. Les truites des sables qui en résulteraient pourraient alors commencer leur lente transformation. Tu avais raison, père. C'est tellement simple quand on regarde les choses en face. Inutile d'aller chercher un monde désertique pour transplanter les vers. Les truites sauraient créer toutes seules l'habitat nécessaire à Shai-Hulud. Il n'était pas agréable de songer que la planète du chapitre serait un jour constituée de vastes étendues de désolation totale, mais c'était indispensable. Le testament que Miles Tegg avait enregistré dans les systèmes de mémoire submoléculaire du non-vaisseau ne pouvait être ignoré. Mais Yonda elle-même le reconnaissait. Le chapitre allait devoir réviser entièrement ses archives historiques. Ce que Tegg avait appris sur les égarés, les catins de la dispersion, demandait un regard neuf. On connaît rarement le nom de ceux qui sont riches et puissants. Le plus souvent, on n'a affaire qu'à leurs mandataires. L'arène politique entraîne quelques exceptions, mais ne révèle pas toute la structure du pouvoir. Le philosophe Mentat avait fait une brèche profonde dans toutes leurs idées reçues. Ses conclusions ne cadraient pas avec la foi des archivistes dans l'inviolabilité de leurs analyses. Nous le savions déjà, Miles. Nous ne voulions pas l'admettre, c'est tout. Je pense que pendant plusieurs générations, nous allons être tout occupés à fouiller dans notre mémoire seconde. On ne pouvait pas faire confiance à un système fixe de stockage des données. Si vous détruisez la plus grande partie des documents en circulation, le temps se chargera du reste. Quelle n'avait pas été la rage des archivistes en entendant la voix du Bachar proférer une telle condamnation. Le fait d'écrire l'histoire est en grande partie un processus de diversion. La plupart des comptes rendus historiques détournent en réalité l'attention des influences secrètes qui se sont exercées sur les événements en question. C'était ce passage qui avait emporté l'adhésion de Beyonda. Elle avait même renchéri.
Les quelques témoignages qui échappent à ce processus restrictif sont rapidement relégués dans l'ombre par des procédés évidents.
Tegg avait énuméré quelques-uns de ces procédés. Détruire le plus grand nombre d'exemplaires possible. Discréditer les témoignages les plus révélateurs en les couvrant de ridicule. Les ignorer dans les centres d'enseignement. S'assurer qu'ils ne circulent pas ailleurs. Dans quelques cas extrêmes, élimination des auteurs. Sans mentionner le phénomène du bouc émissaire, qui a coûté la vie à plus d'un messager porteur de mauvaises nouvelles, se dit Odrad. Elle avait entendu parler d'un ancien souverain qui gardait toujours une lance à portée de la main pour transpercer ses oiseaux de sinistre augure. Nous possédons une bonne base d'informations pour asseoir une meilleure compréhension de notre passé, avait argumenté Odrad. Nous n'avons jamais ignoré que ce qui était dans la balance à l'occasion de n'importe quel conflit, c'était le moyen de déterminer qui aurait la maîtrise de la matière première ou de son équivalent. Peut-être que ce n'était pas tout à fait de noble fin, mais cela en tiendrait lieu pour le moment. « Je suis en train d'éviter le problème central », se dit-elle. Il allait falloir prendre une décision à propos de Duncan Idaho, et elle le savait toute. En soupirant, Odrad se leva pour demander qu'on fasse venir un orni et se prépara à franchir la courte distance qui la séparait du non-vaisseau. La prison de Duncan était au moins confortable, se dit-elle en entrant dans le poste de commandement que Tegg avait précédemment occupé. Il y avait encore des signes de son passage ici. Un petit projecteur holosta, qui montrait une vue de sa demeure sur l'Ernaeus, avec la vieille maison austère, la pelouse immense et la rivière. Le nécessaire de couture de Tegg était posé sur une petite table à proximité. Le Gola, assis dans un fauteuil pliant, était en train de contempler la projection quand elle entra. Il leva la tête avec indifférence. « Vous l'avez laissé mourir sans rien faire, » dit-il. « Nous avons fait ce qu'il y avait à faire. J'ai obéi à ses ordres. Je sais pourquoi vous êtes ici. Mais ne croyez pas que vous pouvez me faire changer d'avis. Je ne suis pas l'animal reproducteur de vos foutues sorcières. Vous avez bien compris ?» Odrad lissa le bas de sa robe et s'assit au bord du lit face à Duncan. « Avez-vous jeté un coup d'œil au document que nous a laissé mon père ?» demanda-t-elle. « Votre père ?»« Miles Tegg était mon père. Je vous rapporte ses dernières paroles. Ses yeux ont été les nôtres dans les tout derniers moments. Il fallait qu'il voie la mort de Rakis. L'esprit du premier éveil avait compris l'importance des dépendances et des bûches maîtresses. » Voyant son air perplexe, elle expliqua. « Nous sommes restés trop longtemps prisonniers du labyrinthe d'oracle établi par le tyran. » Elle perçut la brusque tension de ses muscles, le mouvement du félin qui se prépare à l'attaque. « Vous ne pourriez pas sortir vivant de ce vaisseau, » dit-elle. « Je pense que vous savez pourquoi. » « Siona, vous représentez un danger pour nous, mais nous préférerions vous voir vivre utilement. Il n'est toujours pas question que je vous serve de reproducteur, et surtout pas avec cette petite morveuse qui vient de Rakis. » Audra eut un sourire. Elle se demandait comment Shyana réagirait à cette description.
« Vous trouvez ça drôle ?» demanda Duncan.
« Pas vraiment. Il nous reste l'enfant qu'aura Murbella, naturellement. Je suppose que nous devrons nous en contenter. Je lui ai parlé par le com. Elle est persuadée qu'elle va devenir révérende mère, que vous allez l'accepter au sein du Bene Gesserit. Et pourquoi pas? Ses cellules ont passé avec succès le test de Siona. Je suis sûr qu'elle fera une sœur remarquable. Elle a réussi à vous donner le change? Vous voulez dire, ne nous est-il pas venu à l'idée qu'elle voulait se joindre à nous uniquement pour apprendre nos secrets avant de nous laisser tomber? Nous savons parfaitement ces choses, Duncan. Et vous ne pensez pas qu'elle puisse échapper? Une fois que nous tenons quelqu'un, nous ne pouvons plus jamais le perdre vraiment. Vous ne croyez pas avoir perdu Dame Jessica? Elle nous est revenue à la fin. Pourquoi êtes-vous ici? J'ai pensé que vous aviez droit à une explication sur le véritable dessein de la mère supérieure. Son but était la destruction de Rakis, voyez-vous. Ce qu'elle recherchait vraiment, c'était l'élimination de la quasi-totalité des vers géants.
Par tous les dieux d'en bas, mais pour quelle raison?
Ils représentaient une force prophétique qui nous maintenait en état de servitude. Ces perles de la conscience du tyran amplifiaient son emprise. Il ne prédisait pas les événements, il les créait.
Duncan désigna l'arrière du vaisseau. Et dans ce cas, pourquoi?
Celui-là? Il est tout seul à présent. Avant qu'il se soit reproduit en nombre suffisant pour exercer à nouveau une influence quelconque, l'humanité aura progressé suffisamment pour être autonome et hors de sa portée. Nous serons trop nombreux et trop diversifiés. Aucune force ne pourra régir à elle seule notre avenir.
Plus jamais.
Elle se leva. Voyant qu'il ne disait rien, elle poursuivit. Dans les limites qui nous sont imposées et que vous comprenez, j'en suis sûr, je serais personnellement heureuse que vous réfléchissiez au genre de vie que vous désirez mener. Je vous promets de faire tout ce que je pourrai pour vous aider.
Pourquoi feriez-vous ça?
Parce que mes ancêtres vous aimaient. Parce que mon père vous aimait.
L'amour? Vous autres sorcières n'êtes même pas capables de le ressentir.
Baissant les yeux vers lui, elle le considéra en silence durant près d'une minute. Ses cheveux décolorés avaient recommencé à pousser noir à la racine et à former des boucles, particulièrement sur sa nuque.
« Je ressens ce que je ressens, » murmura-t-elle enfin. « Et ton eau est la nôtre, Duncan Idaho. »
Elle vit l'effet que cette apostrophe Fremen avait sur lui. Puis elle se détourna et se fit ouvrir la porte par les gardes. Avant de quitter le vaisseau, elle retourna dans la soute contempler le ver géant tranquillement étendu sur son lit de sable rakien. Le hublot par où elle l'observait dominait le monstre captif de 200 mètres environ. Odrad partagea un rire silencieux avec Taratza, dont la présence en elle était de plus en plus établie.
C'est nous qui avions raison.
Et Shfangyu et ses partisans avaient tort. Nous savions bien qu'il voulait sortir de là, c'était évident après ce qu'il a fait. Elle murmura tout haut, comme si elle parlait pour elle-même ou à l'intention des observateurs postés là pour signaler le moment où la métamorphose du ver commencerait.
« Nous connaissons ton langage à présent. »
C'était un langage sans mots, un langage fait de rythmes et de mouvements de danse adaptés à un univers de rythmes et de danse. On pouvait s'exprimer dans ce langage, mais on ne pouvait pas le traduire en mots. Pour en comprendre la signification, il fallait vivre l'expérience, et même alors on voyait changer cette signification sous ses yeux. Les nobles fins étaient tout compte fait une expérience incommunicable. Mais lorsqu'elle regardait, comme en ce moment, le mastodonte à la peau rugueuse et insensible à la chaleur du désert rakien, Odrad ne doutait pas de ce qu'elle avait sous les yeux. La preuve tangible que les nobles fins étaient bien réels. Doucement, elle l'apostropha.
« Dis, vieux vert, c'était bien ça ton dessin ?»
Elle ne reçut pas de réponse, mais bien sûr, elle ne s'était pas vraiment attendue à en recevoir une.
Merci. Et à bientôt chez Audible.